Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et comme chaque jour, pour bien commencer l'après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand nous propose d'aller faire un tour au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. On célèbre en ce moment le 60e anniversaire d'une affaire retentissante et dont on perçoit encore des échos dans l'actualité la plus brûlante. C'est la célèbre, évidemment, c'est la mythique affaire Dominici.
L'affaire Dominici qui demeure un mystère.
Oui, on peut dire qu'il est très rare qu'un dossier aussi exposé reste une énigme après 6 décennies. Eh bien, c'est le cas de celui-ci. Et nous allons essayer, en compagnie de mes invités, de faire pour vous toute la lumière à son sujet.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le 5 septembre dernier, 3 membres d'une famille britannique étaient retrouvés assassinés dans leur voiture en Haute-Savoie, non loin du lac d'Annecy, à Chevaline exactement. Seules 2 petites filles de 4 et 7 ans avaient échappé à une fusillade dont se révélerait aussi victime un cycliste. L'affaire est un peu récente pour intéresser une émission d'histoire comme la nôtre, mais elle n'a pas été évidemment sans en rappeler une autre. Aussitôt, en effet, les médias français, britanniques et même ceux d'ailleurs ont fait le rapprochement avec une affaire célèbre entre toutes, entrée dans la légende des grands mystères judiciaires, l'affaire Dominici. Vous savez, c'est bien simple, le XVIIe siècle avait eu l'affaire des poisons, le XVIIIe l'affaire Callas, le XIXe l'affaire Dreyfus, eh bien le XXe aura connu l'affaire Dominici, mystère absolu, universel, énigme pour les initiés autant que pour les profanes. Nous allons voir jusqu'où dans un instant. L'été 1952, la presse a parlé très vite du triple crime de l'URSS pour désigner l'affaire. L'URSS du nom de cette petite commune des Alpes de Haute-Provence, on est près de Fort-Calquier, commune où ont été découverts le 5 août, au bord de la Nationale 96, les corps de 3 campeurs britanniques, Sir Jack Drummond, sa femme Lady Anne et leur fille, une enfant de 12 ans, Elizabeth. Mais très vite, l'affaire va devenir l'affaire Dominici, car la famille paysanne qui habite la ferme voisine, on est à 160 mètres des lieux du crime, la Grand-Terre, cette famille concentre sur elle tous les soupçons. D'abord, dès le 7 septembre 1952, Gustave, le fils cadet de Gaston, le patriarche, est condamné à 2 mois de prison pour non-assistance à personne en danger. En effet, il a fini par reconnaître avoir vu la petite Anne vivante. Et puis, au bout de 15 mois, Gustave va accuser son père, Gaston. C'est le vieux, dit-il au commissaire Sébeille, chargé de l'affaire, c'est le vieux qui a tout fait. Le 15 novembre 1953, le patriarche, en effet, passe aux aveux. « J'ai été surpris autour du campement des Anglais, avoue-t-il, du bout des lèvres. Je me suis querellé et j'ai dû ensuite les tuer tous les 3 ». Aveu fascinant, un peu étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, auquel sont suspendus les quelques 40 millions de Français de l'époque. L'affaire est renvoyée devant les assises, sauf que bientôt, à l'exception du fils aîné des Dominici Clovis, tout le monde va se rétracter dans cette affaire, à commencer par Gustave, dont les aveux auraient été, dit-il, extorqués. Plus de 40 ans après les faits, voici ce que Gustave Dominici, le fils du patriarche, déclarait au micro de Paul Lefebvre, c'était sur Europe 1.
Mon père est dit, je suis l'auteur du crime. Ça, je ne le crois pas.
Et vous n'en avez jamais parlé entre vous?
Non, parce que mon frère Clovis, il s'est fâché de suite, avec moi.
Pourquoi ont-ils essayé de vous convaincre que votre père était le meurtrier? Avec quels éléments?
Mais ils ont tout employé, je crois, moi, parce qu'ils me disaient, si c'est pas toi, c'est ton père n'y fera rien, il est âgé, il sera dans une maison de repos, il m'enseigne ça, tu comprends? Et que toi, ben, tu passes à la guillotine. Voilà.
Parce que vous étiez plus jeune.
Oui. Ils nous en voulaient sur nous, et tant que... C'est bien, ils étaient acharnés sur nous, ils disaient qu'on était des innocents, mais il fallait quelqu'un. Il fallait qu'on paye pour le criminel, nous.
C'est grave ce que vous dites là, monsieur.
Eh oui, c'est grave.
La voix de Gustave Dominici au micro de Paul Lefebvre. En ce début des années 50, tous les reporters et chroniqueurs judiciaires sont sur le pied de guerre, à commencer par l'inénarrable Frédéric Potcher. Cette affaire devient un véritable feuilleton national. Elle le restera longtemps, très longtemps. Elle va s'ériger au rang d'un mythe. Jean Giono écrivait « Le destin ». Deux familles à plus de 2000 km l'une de l'autre. L'une en Grande-Bretagne, l'autre à la Grande-Terre. Nuit d'août, les deux familles se rencontrent, l'une disparaît, l'autre vole en éclats. Les rebondissements, les infinis coups de théâtre de l'affaire Dominici vont désormais rythmer la chronique nationale, et ce, durant des années. Ce sont tous ces événements dans l'événement que je vous propose de revivre cet après-midi.
Et avant votre récit, Franck, sur Europe 1, nous nous intéressons à une énigme vieille de 60 ans. Il s'agit de l'affaire Dominici. On en parle avec vous et avec vos invités sur Europe 1.
Jean-Charles Degnaud est avec Madeleine Sultan, l'auteur d'un ouvrage paru chez L'Archipel, Dominici. C'était une affaire de famille, avec un point d'exclamation que n'aurait certes pas renié Frédéric Potcher. Bonjour Jean-Charles Degnaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour essayer de nous aider à y voir plus clair dans cette affaire qui a fait l'objet d'un nombre incroyable d'articles, de nombreux ouvrages, évidemment. On ne peut pas imaginer une anthologie des grandes affaires judiciaires sans qu'elle s'ouvre par l'affaire Dominici, qui a fait l'objet de films aussi. Nous en parlerons tout à l'heure avec l'un des auteurs de ces films. Et malgré tout ça, ou peut-être à cause de cette avalanche de données, on a l'impression de ne pas y voir beaucoup plus clair. Alors vous, vous nous dites si, moi je sais, j'ai reconstitué, nous avons reconstitué le scénario de ce drame incroyable. Il faut peut-être commencer par resituer les choses dans leur contexte. On est dans l'immédiate après-guerre, finalement.
On est en 1952, la guerre est terminée depuis 7 ans. Il y a eu des histoires incroyables de résistance dans cette région où les communistes étaient très, très, très influents.
C'est important de le dire, on va voir pourquoi tout à l'heure.
Voilà, et beaucoup d'armes circulent, il y en a dans les granges. Et puis les Américains ont remonté jusqu'au nord de la France et ils échangeaient des armes de guerre contre du fromage ou de la charcuterie. Et donc il y a un nombre incroyable d'armes et c'est un contexte particulier qu'on retrouve rarement. Des personnages incroyables. Gaston Dominici, le patriarche, est un personnage fascinant. Il est intelligent, il est malin, il est rusé. Et ce jour-là, ce jour d'août 1952, c'est le dernier jour des moissons. Et il y a une coutume qui se perpétue dans cette région. Le canal de la Durance passe au-dessus des propriétés des Dominici et on a droit, une fois par mois, d'ouvrir une écluse pour laisser l'eau franchir la route et aller de l'autre côté pour arroser un champ de luzerne.
Mmh.
Et
le fameux champ de luzerne.
Et Marie, la mère, a oublié de refermer la martelière, comme on dit. Et comme souvent dans le Midi...
Marie, c'est Marie la Sardine.
Marie la Sardine.
Personnage un peu insignifiant, disons-le.
Oui, l'épouse de Gaston. Elle a oublié de refermer la martelière. Et l'eau a continué de couler dans le champ. Et le champ s'est imbibé et il y a eu un début d'éboulement. Et si l'éboulement obstrue la voie ferrée, le train qui passe à 7 heures le lendemain matin peut être arrêté et les Dominici devront payer une énorme amende.
Ce donc qui les n'est Dominici, pas évidemment dans de leur goût. Hein,
parce ce que n'est pas de leur goût.
On est près de ses sous chez les Dominici, évidemment.
On est près de ses sous, comme souvent des paysans. Ouais. Il faut dire que ce sont des gens courageux, travailleurs.
Oui, bien sûr.
Ils ont su exploiter cette ferme dans laquelle il n'y avait que de la caillasse et Gaston, il est fier de la grande terre. Il est fier de sa campagne, comme il dit. Et entre la propriété des Dominici et le fameux champ de luzerne qui menace d'éboulement, il y a les Drummond. Et toute la soirée, les Dominici font la navette pour aller surveiller l'éboulement.
Pour voir jusqu'où ça va aller et si la voie ferrée peut être endommagée.
Obstruée, voilà. Et ça, c'est le début de l'affaire. Et donc les Dominici ont vu les Drummond.
C'est très important ce que vous venez de dire, parce que ça explique pourquoi on a l'impression, quand on lit tous les rapports, et Dieu sait qu'il va y en avoir, et ils s'accumulent dans cette affaire, que tout le monde était debout pendant cette nuit incroyable. On se dit, mais ils ne dorment jamais, ces gens-là. Les coups de feu qu'on a entendus, c'est à 1h10 du matin, or le nombre de suspects possibles est presque infini. Tout le monde était là, on a l'impression, c'est étrange.
Oui, sept coups de fusil d'armes de guerre. Ça s'entend. Et les Dominici sont au lit, ils entendent, mais ils ne font pas le rapprochement avec les Drummond. Et il y a 165 mètres de distance entre la propriété et le campement des Drummond qui sont, qui, il faut le dire, dorment à la belle étoile.
Qui sont-ils, ces Drummond? Ce sont des Britanniques?
Oui, ce sont
des Britanniques. Le père, la mère et la petite fille. Hein.
Voilà. Jack Drummond a été anobli par la reine. Il est nutritionniste, il est spécialiste des vitamines. Pendant la guerre, il a mis au point...
À l'époque, il a été anobli par le roi, mais enfin, peu importe, par le père de la reine.
Oui, par le père de la reine. Il a mis au point un système pour nourrir les populations à base de harengs-sort. Il n'a jamais été espion. Même, il a peut-être fait des traductions à Bletchley Park pendant la guerre, mais il n'a nullement été un espion. Il s'est marié avec une de ses élèves, Lady Drummond, qui a 20 ans de moins qu'elle. Et ils ont cette jeune Elisabeth, qui a 10 ans, qui est leur fille adorée. Et ils sont amoureux de la France. Ils sont venus en France chez des amis, les Marianne, qui sont à Villefranche-sur-Mer. Et ils ont décidé d'aller à Digne pour assister à un spectacle de tauromachie. Et ils ont prévenu les Marianne que, sur le retour, ils feraient une escale et qu'ils dormiraient à la Belle Étoile.
Parce qu'ils ont une voiture avec un grand coffre, il faut dire, dans lequel on peut dormir, hein, c'est ça?
Non, c'est une Hillman, c'est une petite voiture, simplement à l'arrière, les deux portières s'ouvrent.
Ah voilà, c'est ça.
L'une à côté de l'autre, et ils ont aménagé une couche pour leur fille avec un matelas et des couvertures.
Alors on va découvrir leur corps. Alors d'abord, le corps des parents, il faut bien distinguer d'ailleurs. Là, il y a une distinction très importante entre les corps des parents et le corps de la petite fille.
Alors voilà ce qui se passe. À 5 heures du matin, Gustave sort comme un diable d'une boîte de la route et il arrête un cycliste, Jean-Marie Olivier, qui revient de son travail. Il travaille à l'usine de Saint-Alban et il revient du travail et il est arrêté par Gustave Dominici qui lui dit « J'ai trouvé, il y a une petite fille morte là, sur la pente de la Durance. Va prévenir la police. » Et Jean-Marie Olivier, qui d'ailleurs, père à son homme, est décédé il y a 8 jours, il n'y a donc plus que 2 témoins de cette affaire Dominici aujourd'hui, vivants, Jean-Marie Olivier part pour prévenir la gendarmerie. Les gendarmes arrivent 3/4 d'heure, 1 heure après. C'est Gustave qui a donné l'alerte. Et lorsque les gendarmes arrivent, beaucoup de gens sont passés. Il y a un car, le car qui fait la navette entre Digne et le sud, vient de passer. Des gens se sont arrêtés. Tout a été bouleversé. Des gens se sont même fait prendre en photo devant la Hillman, en ouvrant les portières. Donc lorsque...
La scène de crime a été complètement galvaudée. Tout le monde a circulé là-dessus. C'est
complètement
incroyable.
Complètement. Lorsque le commissaire Sébeil...
Il a mis le temps pour venir, le commissaire Sébeil.
Oui, il a mis du temps puisqu'il a été prévenu très tard. Et il arrive à vers 15h, 16h, le commissaire Sébeil. Et alors là, il est effaré par ce qu'il voit.
Signature à la paix.
Non, je signe pas parce que je suis innocent.
Allez, dépêche-toi et tu l'auras ton vin. Et on fera venir ton chien.
Je pourrais conserver la grand-terre.
Oui, tu auras tout.
Bon, comme c'est moi le plus vieux, c'est à moi de me sacrifier. Je signe, mais je suis innocent.
Alors, grand-père, si vous êtes innocent, il ne faut pas signer.
Ah, mon bon monsieur, si vous saviez. Si je signe pas, il va arriver un grand malheur à la grand-terre.
C'était 20 ans après les faits. On était en 1973, le film de Claude Bernard-Aubert avec Jean Gabin, dont vous avez bien sûr reconnu la voix, l'affaire Dominici. On y voit un patriarche, hein, ce père, ce Gaston Dominici qui va devenir célèbre à l'échelle du continent. On y voit Gaston Dominici signer des aveux, mais tout en disant qu'il est innocent. Alors, sa situation est très, très ambivalente et très ambiguë dans cette histoire.
Oui, il est d'abord accusé par Gustave. C'est Gustave Dominici.
Par son propre fils.
Par son propre fils qui met en cause son père. Et Clovis Dominici. Clovis Dominici, quand
il... Un autre fils.
Le fils.
Il y a 8 enfants en tout.
Oui, hein. Il a 8 enfants. Clovis, qui ne vit pas à la Grande-Terre, qui travaille à la SNCF. Clovis Dominici, lorsqu'on lui a montré la rocola, c'est-à-dire l'arme du crime, est tombé en pamoison. Il a reconnu l'arme du crime. Et Gustave accuse son père, Clovis accuse son père. Nous sommes en janvier 1953. Et à ce moment-là, Gustave est arrêté, il va à Digne et il passe aux aveux. Mais il passe aux aveux pour se rétracter tout de suite. Il ne veut pas parler à ses beilles, il parle à un commissaire Girolami, à un autre. C'est très compliqué puisqu'il y aura 5 passages aux aveux et 5 rétractations, ce qui fait que Polak a dit d'ailleurs 5 d'un côté, 5 de l'autre, la balle au centre, on repart à zéro.
Ouais. Mais alors, qui est-il, ce patriarche? Et pourquoi joue-t-il comme ça, constamment, avec les nerfs de la police et des enquêteurs?
Il est très intelligent, très rusé.
Il veut se faire passer pour moins intelligent qu'il n'est, finalement.
Oui. Il veut manipuler tout le monde, et il y arrive très souvent. Quand, pendant le procès, on lui dit « Est-ce que vous êtes allé à tel endroit ?» Il dit « Mais attendez, il n'y a pas d'aller pour aller là-bas. » Vous voyez? Et quand il veut... Regarde, dans Mythologie, Barthes parle très très bien,
oui, bien sûr,
du langage
qui est,
de Dominique.
Qui est une étude sémiologique de tous les signes des années 50. Hein.
Oui.
Donc il parle de la déesse Citroën de Minou Drouet et de l'affaire Dominici.
Et de l'affaire Dominici. Et donc Gaston fascine la cour parce que tantôt il est abattu, tantôt il domine tout le monde, tantôt, et il s'en prend à ses enfants très souvent. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand il apprend qu'il est condamné à mort...
Parce que oui, là, vous nous annoncez ça comme ça, mais il y a un procès aux assises, évidemment, puisqu'il a fait des aveux.
Qui est le... Alors, après les aveux, il y a un procès aux assises, mais ce qui est extraordinaire dans ce procès, pourquoi aussi tout ce tapage médiatique? Il y a la Bellino qui vient d'être inventée. Donc, on peut envoyer des photos par la Bellino.
C'est-à-dire que les journalistes peuvent envoyer directement des photos à leur rédaction à Paris.
À leur rédaction. Des téléphones ont été installés partout. Et même, à un moment... Il y aura des haut-parleurs à l'extérieur de la cour d'assises.
175 reporters accrédités pour ce procès, dans une toute petite salle d'assises, évidemment à Digne, qui n'a pas été conçue pour ça. Et donc, ça crée peut-être aussi l'atmosphère électrique de cette affaire.
Hein. Oui, et c'est extraordinaire, parce que c'est un vrai drame paysan. Pendant toute cette séance des assises, les Dominici vont se déchirer, vont s'injurier, vont hurler les uns contre les autres. Ils vont s'accuser. Et curieusement, les Dominici n'ont jamais accusé personne d'autre en dehors de la famille.
Oui, ça a été quand même... on peut dire que ça a été un grand psychodrame national, cette affaire.
Oui, bien sûr. Et on suit presque ça en direct. Les radios sont là, toutes.
Et on a l'impression que ces gens lavent leur linge sale en famille, c'est le cas de dire. Et en même temps, on joue là quand même la résolution d'une énigme criminelle de premier ordre. Personne n'est dupe au moment où le père Dominici est condamné à mort. Lui ne s'attendait pas peut-être
non.
à être condamné
Alors,
à mort.
Ça, c'est le grand mystère. Vous dites que nous on a une hypothèse, une thèse.
Oui, bien
mais
sûr.
Mais
ce
n'est
oui.
pas... forcément la vérité. On pense qu'on s'est approché le plus près possible de la vérité.
Si vous voulez, on va y venir tout à l'heure à cette thèse. Je voudrais juste que vous nous disiez un mot avant que je ne passe au récit, puisque je vais essayer, avant qu'on en vienne aux thèses, aux différentes thèses justement, je vais essayer de raconter la contre-enquête qui a succédé à ce verdict des assises. Mais quelle était la psychologie du vieux, si je puis dire, au moment du verdict?
Le vieux, il était partagé. Il voulait pas, comme dans le film avec Gabin dit, il veut pas perdre la Grande Terre. On lui a promis qu'il ne perdrait pas la Grande Terre. Et donc, il accepte de prendre tout sur son dos.
Il devient le paratonnerre de cette
Il devient
affaire.
Le paratonnerre, mais quand il apprend qu'il va être condamné à mort, il dit, mais on m'avait pas promis ça, à mon âge.
Et il dit en quittant le box, allez salaud.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Effectivement, place au récit de Franck sur Europe 1 qui revient maintenant sur la contre-enquête qui a succédé le verdict des assises. Et je vous rappelle qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'affaire Dominici.
Coup de théâtre et rebondissement, il n'y a que ça dans cette affaire Dominici. Et bien entendu, au moment où les Français apprennent la condamnation à mort de Gaston Dominici, vous imaginez l'émotion, et bien dans la foulée, on apprend, ce sont les défenseurs de Dominici qui annoncent que le vieux aurait des révélations à faire. Les avocats ont fait parvenir un mémoire avec leurs conclusions et un certain nombre de questions. Ils l'ont fait poser directement sur le bureau du garde des Sceaux. Le 10 décembre 1954, le procureur général se voit donc invité par le ministre en personne, par la chancellerie, à faire procéder à l'audition du condamné à mort, donc qui se trouve à ce moment-là détenu à la prison des Baumettes. Le 14 décembre, on apprend qu'une mission d'information vient d'être nommée. Ce que je vous propose d'entendre maintenant, c'est un document Europe numéro 1, comme on disait à l'époque, qui date de 1955. C'est la réaction de la famille, c'est la réaction en l'occurrence de Gustave Dominici et de sa femme Yvette à l'annonce de la création de cette contre-enquête.
Nous sommes très heureux que l'enquête recommence, car nous voulons que la vérité éclate, que nous la demandons depuis très longtemps, quoi, que nos petits-enfants n'ont pas à rougir du nom de Dominici.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire mon mari, et nous souhaitons tous que la vérité éclate, oui, que nous soyons tous innocentés.
La mission d'information a été confiée aux commissaires Chenevier et Gigard. Alors, ils vont rencontrer Gaston Dominici dès le dimanche 19 décembre. Tout ça commence très vite. Ils le rencontrent ce jour-là pendant 2 heures. Et puis le lendemain, le lundi, on sait que l'audition dure pendant 10 heures. Alors, que dit Gaston Dominici aux deux nouveaux enquêteurs qui sont chargés de reprendre l'affaire? Il leur dit qu'il a surpris une étrange conversation entre son fils Gustave et sa belle-fille Yvette, qu'il a entendu prononcer pendant cette conversation le mot « bijou », qu'Yvette aurait demandé « qui a transporté la petite ?» Alors évidemment, c'est surprenant, et d'autant plus que Gustave aurait répondu « c'est Zézé ». Zézé, c'est Roger Perrin qui est le petit-fils de Gaston. Un des petits-fils, évidemment. Le patriarche ajoute qu'il n'a pas pu en entendre davantage parce que sinon ça aurait donné l'impression qu'il écoutait aux portes. On est toujours dans cette affaire à mi-chemin de la tragédie et d'une espèce de comédie bouffonne. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a fait évidemment l'extraordinaire succès médiatique de cette affaire. Je cite Marcel Montaron, un des grands spécialistes des procès d'assises de cette époque. « Dès que Chenevier tentait de prendre le vieux au mot, celui-ci répétait « J'aime mieux mourir. Dire des mensonges, non. J'ai entendu des voix dans la cour. Si je m'étais douté d'une chose pareille, j'aurais été monter la garde là-haut pour éviter ce qui s'est passé. C'est pas des saligots, c'est des bandits. Alors, vous les couvrez, ces bandits ? Ah, si je les avais vus, mais je ne les ai pas vus. Ce que j'ai pas vu, je ne peux quand même pas le dire. Lorsque vous parliez de la luzerne, vous mentiez ? Et là, si je mentais, je ne puis pas dire des choses que je ne sais pas. Vous avez entendu la voix de deux hommes. » Et ça, c'est le commissaire Chenevier qui insiste. « Je ne peux pas le dire, marmonne Gaston Dominici. Si je le savais, oh, je voudrais bien le savoir. Je mourrais, c'est tout. Le bon Dieu ne leur portera pas la grâce. S'il m'avait acquitté, je ne dirais rien à personne. Personne n'en aurait jamais rien su. Je pensais que, poussé par maître Polac, Gustave aurait pourtant dit la vérité. » Et ce genre d'entretien d'une ambiguïté qui devient presque incernable, ce genre d'entretien va donc se poursuivre. Alors, peu de temps après, on apprend que Gaston Dominici aurait fait une intoxication alimentaire. Il est transféré à l'infirmerie de la prison des Baumettes. On l'a installé d'ailleurs relativement confortablement. Et on voit se créer, comme dans toutes les grandes affaires, je parlais tout à l'heure de l'affaire Callas, de l'affaire Dreyfus, alors qu'elle avait certes des implications politiques infiniment plus importantes, mais l'on voit se constituer à travers le pays deux camps, le camp des pro-Gaston et le camp des anti-Gaston. Il y a ceux qui pensent qu'effectivement il y a bien eu altercation entre le patriarche et les Drummond et que ça a conduit à la tragédie. Et puis il y a tous ceux qui pensent que le vieux n'est pour rien dans tout ça et que c'était ceux qui, cette nuit-là, étaient debout pour surveiller le fameux éboulement du champ de luzerne et surveiller la voie ferrée, qui auraient roudé autour de la voiture, autour de l'Hillman des Britanniques et qui auraient donc provoquer le drame. Chenevier s'est mis à l'ouvrage, il va travailler pendant longtemps, il revoit tous les témoins, etc. Sauf que il ne peut reprendre son enquête qu'à l'été venu, et évidemment, l'affaire est devenue tellement médiatique qu'il travaille au milieu d'une véritable foule de touristes qui sont là à guetter ses moindres faits et gestes, à essayer d'apercevoir par les fenêtres ouvertes du commissariat de Digne, parce qu'il fait très chaud, évidemment, pendant ce mois d'août 1955. C'est à ce moment-là que Chenevier mène son enquête de nouveau. Montaron. À l'intérieur du commissariat de Digne, tout le monde était en manche de chemise. La machine à écrire crépitait. C'était Gustave qui racontait comment il n'avait rien vu, rien entendu. « Pourtant, s'étonne Chenevier, vous avez bien dit au commissaire Sébet, je n'ai rien dit. Vous avez bien dit au Juspé, je n'ai rien dit. C'est écrit noir sur blanc sur les procès-verbaux, vous avez signé, ce sont des faux. » Chenevier demanda à Gustave de réfléchir à la gravité de ces accusations. Et le lendemain, il revint à la charge. « Alors, Gustave ?» « Ce sont des faux !» répétait obstinément le fils du condamné à mort. Alors Chenevier est descendu trouver les journalistes et tous ceux qui, curieux, étaient là. « Messieurs, dit-il, il vient de se passer quelque chose de très grave. Gustave accuse messieurs Périès et Sébeille d'être des faussaires. » En attendant que soit réglé l'incident, nous allons reprendre nos enquêtes et l'on voit Chenevier et Gillard continuer à enquêter. Ils reprennent néanmoins assez vite le train pour Paris. Le 12 août au soir, on peut dire que le supplément d'informations qui avait été requis, finalement, dans cette affaire, a fait long feu. La contre-enquête ne sera reprise qu'un peu plus tard, au mois d'octobre, et le commissaire Chenevier déclare qu'au vu de toutes les déclarations du vieux condamné à mort, on peut conclure, premièrement, que le vol était le mobile vraisemblable du crime, deuxièmement, que l'éboulement avait été la cause indirecte des meurtres, et troisièmement, selon le vieux Dominici, écrit donc Chenevier, la fillette a été portée, ce qui expliquerait l'absence d'égratignures et de poussière sous la plante de ses pieds. Le commissaire va rédiger des conclusions. Pour lui, il n'est plus permis de penser que le patriarche de la famille Dominici serait l'unique assassin de la famille Drummond. On peut seulement lui attribuer le meurtre de l'enfant. Il y a une preuve matérielle de ça, c'est un pantalon, un bleu de travail en fait, qui séchait dans la cour de la Grand-Terre au matin du 5 août 1952, auquel la police n'avait pas fait grande attention. La responsabilité partielle du vieux Gaston en implique une autre, dit-il, celle de son fils Gustave. Alors on se dit, mais on va tout reprendre. Eh bien non, devant l'extrême complication de cette affaire, on préfère fermer le dossier. Plus tard, le président Coty commuera la peine de Gaston Dominici. Il ne le condamne plus à mort, il commue la peine en détention perpétuelle. Et puis, il reviendra au général de Gaulle en 1960 d'accorder la grâce. On apprend donc au début de l'année 61 que le vieux Dominici, il faut dire qu'il a 84 ans à cette époque, bénéficie d'une mesure de grâce et que Clovis, celui de ses trois fils qui a toujours maintenu son accusation alors que les autres sont revenus sur ce qu'ils avaient dit, que Clovis est mort entre-temps. Le père Dominici reviendra après sa grâce à la Grande-Terre qui sera vendue. Le vieux Dominici est obligé d'aller habiter chez une de ses filles et puis on apprendra plus tard, en 1967, qu'il est mort dans une maison de retraite à l'âge de 90 ans.
Ferrand.
Sur Europe 1 de la bande originale du film L'affaire Dominici, un film de 1973 réalisé par Claude Bernard Aubert et composé cette musique par Alain Goraguer. Je précise que jusqu'à 14h, nous nous intéressons à cette affaire qui, 60 ans après, reste mystérieuse avec vous, Franck, et vos invités sur Europe 1.
Oui, Julie, alors nous avons vu à grands traits, certes, les faits. Nous avons évoqué avec des bottes de 7 lieues toute la procédure judiciaire et les rebondissements auxquels elle a donné lieu. Il serait temps peut-être d'évoquer les thèses maintenant. Et ça m'amuse beaucoup que Jean-Charles Degnaud puisse vous exposer en quelques mots ce qui, d'après lui, est le fond de cette affaire, c'est-à-dire une affaire de famille.
Oui, pour nous, c'est une affaire de famille.
Quand vous dites pour nous, c'est avec votre co-auteur Madeleine Sultan.
Oui, puisque nous avons enquêté pas mal de temps, plus d'une année et demie. Nous avons eu accès aux dossiers et nous avons rencontré beaucoup de témoins. Paul Maillet, qui était toujours vivant, qui a accusé Gaston. Et puis ce fameux Barkowski, l'espion d'Allemagne que nous avons rencontré et qui s'est avéré un mythomane, puisque lorsque nous l'avons rencontré, il nous a dit tout de suite que lorsque Lady Di est morte, une voiture passait sous le tunnel du pont de l'Alma et qu'il était dedans.
Ah oui, oula. Oui.
Donc nous avons vite compris qui était ce Barkowski. Voilà. Mais notre thèse, c'est que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que les Dominici, puisque la Rocola, l'arme, appartenait à la famille Dominici.
Donc Azézé, a priori, au petit-fils.
A priori au petit-fils. Que...
Cette arme, elle a été retrouvée dans un trou de la Durance le jour même, le jour même.
Qu'ils se sont tous accusés les uns les autres. Qu'ils ont tous avoué et contre-avoué. Mais petit à petit, on a pu progresser. Et on s'est aperçu que c'était une affaire qui tournait autour de Gustave et de Roger Perrin. Et que Gaston, peut-être, a couvert ce qui s'était passé, parce que les Dominici...
On dit même qu'il aurait pu achever la petite fille qui
était
blessée seulement.
Peut-être qu'il a pu achever la petite fille. Mais parce que la petite fille, c'est prouvé, a été tuée 3 heures après ses parents, puisque lorsque le docteur Dragon arrive à 8 heures pour voir les cadavres, il s'aperçoit que la petite n'a pas encore la rigidité cadavérique alors que ses parents l'ont. Donc la petite a été tuée après et ça ne peut que tourner autour des Dominici.
Donc vous, vous ne croyez pas du tout, j'ai là entre les mains l'article qui à l'époque a relancé les affaires, un article de William Raymond qui était paru dans Historia, vous ne croyez pas du tout à ces aveux du KGB, des espions de l'Est, etc., qui disent qu'ils ont tué les Drummond.
Ça ne tient pas une seconde. Ça ne tient pas une seconde. Des espions qui viennent de l'Est, ils viennent avec leurs armes. Ils ne viennent pas avec une Rocola, avec une arme de guerre qui est rafistolée. Ils arrivent, ils exécutent les personnes incriminées et ils repartent aussitôt. Alors que là, ils sont restés sur place, les corps ont été déplacés.
Mais quel intérêt alors ?
Les douilles ont été ramassées.
Quel intérêt auraient eu les fils de Gaston Dominici dans cette affaire ? Pourquoi est-ce qu'ils d'où serait née la fusillade ?
Alors ça, voilà. Si on savait exactement le mobile, il n'y aurait pas d'affaire Dominici. On ne sait pas pourquoi. On pense qu'il y a eu une altercation avant entre les Anglais qui sont là. C'est pas chez eux, mais c'est sur une partie vicinale. Mais ce sont deux morceaux de leur champ, donc ça doit les déplaire d'avoir cette famille-là. Et il y a peut-être eu une altercation, c'était le soir après...
Dans ce climat de très grande nervosité.
Très grande nervosité, oui. Ils sortaient souvent la nuit pour aller chasser, pour aller braconner le blaireau. Et ils sont sortis avec les deux armes. Je pense que nous pensons qu'ils avaient deux armes, la Rocola et une autre, un fusil Garand peut-être. Et c'est Lady Drummond qui a été tuée la première, puisque le coup a dû partir. C'est un accident, les Dominici.
Au départ,
ce ne
c'est
sont
peut-être
pas,
un accident.
C'est
oui.
un accident, les Dominici ne sont pas des criminels.
Et puis ensuite, il faut faire disparaître les témoins d'un accident.
Et puis ensuite, c'est la panique. Oui, voilà. On sait que l'ordre de Drummond, sœur Drummond, était allé pour uriner, puisqu'à l'autopsie, il a la vessie vide. Et que
et les lacets défaits, oui, c'est ça.
Sont défaits. Donc, et il a pris 2 balles dans le dos. Mm-hmm. Donc il a essayé de fuir. Et la petite Elisabeth Drummond a dû sortir de la Hillman en hurlant et elle a été assommée. Mais elle n'était pas morte sur le coup.
Et alors c'est là qu'il y a un deuxième mystère, encore un mystère de plus dans l'affaire. Je suis très heureux de recevoir Pierre Boutron qui a réalisé un film avec Michel Serrault et avec Michel Blanc sur cette affaire Dominici. Un film dans lequel vous innocentez, vous, clairement, sinon la famille, en tout cas le pépé.
Vous savez, moi, j'ai essayé de faire ma petite enquête parce qu'on m'a proposé un film, mais j'avais quelques longueurs de retard sur Monsieur Degnaud quand même. Et j'ai lu pas mal de choses, et moi, la première chose qui m'a frappé, ce sont les incohérences. Mmh. La première incohérence, c'est qu'est-ce que faisaient les Drummond sur le bord de cette route, à camper et à s'installer sur une route qui était la route nationale entre Marseille et Gap, un peu comme vous, si vous voulez, comme si aujourd'hui, on décidait de camper dans une aire de repos sur l'autoroute Marseille-Lyon. Bon, alors moi, je veux bien qu'on passe des vacances et qu'on fasse du camping à cet endroit-là, mais ça, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'ils foutaient là ?
Bon. Question qu'on se pose sur l'histoire extrêmement récente de la chevaline.
Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Moi, je n'ai pas de réponse à ça, et c'est une question fondamentale. Deuxième chose, j'ai lu très attentivement le livre du commissaire Sébeil.
Et ça, le premier enquêteur est principal.
Ah, oui. Et le livre du commissaire Sébeil m'a ouvert des horizons insondables. Première chose, il était raciste. Il voulait se payer un rital. À l'époque, en 52, il ne faut pas oublier que les Portugais, les Italiens, les Espagnols, les Juifs, on avait mis la pédale douce à cause de ce qui s'était passé
oui.
quelques années avant. Les musulmans, ce n'était pas encore... c'était les Italiens, les ritals. Or, Dominici est un Italien, un rital, qui s'est installé dans une terre pourrie, qu'il a travaillé de ses mains. C'était un homme de journée, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout fait de ses propres mains. Et le commissaire Sebeil voulait probablement sa peau. Quand il a écrit son bouquin, il fait référence à son père. Sur les 450 pages du bouquin, il fait référence à son père tout le temps, y compris sur le fume-cigarette de son père. C'est qu'il voulait ressembler à son père qui était aussi qui était policier. Et il avait une espèce de... Il avait un mimétisme. Et il voulait faire carrière. Et il voulait que l'affaire de Dominici soit l'affaire de sa carrière.
Alors la question qui se pose, c'est de savoir si la situation un peu particulière des Drummond et la psychologie non moins particulière du commissaire Sebeil suffisent à exonérer les Dominici de toutes les charges assez complexes et multiples et croisées qui pèsent sur eux. Nous essayons de répondre à cette question dans un instant.